Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, faut-il à nouveau intervenir en Libye ? La nouvelle est tombée très tôt ce matin. Le Conseil présidentiel libyen en négociation, sous l'égide de l'ONU depuis plusieurs mois, vient enfin d'annoncer la formation d'un gouvernement d'union nationale. 5 ans, jour pour jour, après le début de la révolution contre le régime de Kadhafi, cette annonce résonne comme un espoir dans un pays miné par l'absence d'État et les rivalités politiques. J'espère que la Libye pourra avoir un gouvernement pleinement opérationnel très prochainement, a déclaré la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Il faut dire que les Européens restent inquiets de la situation sur place. L'implantation de l'État islamique dans la ville de Sirte a ranimé le débat sur la nécessité de nouvelles frappes de la coalition internationale en Libye. Le 17 mars 2011, souvenez-vous, sur une initiative franco-britannique, l'ONU autorisait pour la première fois une intervention militaire dans un État au nom de la responsabilité de protéger. L'ancien président de MSF, Ronnie Broman, à l'époque, s'inquiétait de la réhabilitation de la guerre comme mode de règlement des conflits. L'état de guerre civile qui s'en est suivi semble lui avoir donné raison. Alors comment aider les Libyens face à la menace djihadiste ? Faut-il à nouveau intervenir en Libye ? C'est notre sujet du jour. Et nous accueillons 3 invités pour en discuter ce soir. Ariel Kolonomos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CERI, le Centre de Recherche International de Sciences Po. Vous travaillez notamment sur l'éthique de la guerre, sur la notion de prédiction dans les relations internationales. Vous avez publié, alors votre dernier ouvrage, La politique des oracles, raconter le futur aujourd'hui, c'était chez Albin Michel en 2014. Et votre ouvrage paru en 2009 chez De Noël en lien avec notre sujet de ce soir, le pari de la guerre, guerre préventive, guerre juste, point d'interrogation. À vos côtés, Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante, spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à l'ENA et à Sciences Po. Et enfin, 3e invité, Bruno Tertrais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes auteur notamment de La guerre dans la collection Que sais-je au PUF, et c'était en 2014, je ne me trompe pas. Alors, on va revenir sur cette annonce aujourd'hui d'un gouvernement d'union nationale à Tripoli. La médiation onusienne était pourtant jusque-là plutôt dans l'impasse. Et fortement critiquée par les deux camps, Agnès Levallois, est-ce que vous êtes surprise par cette annonce de la formation d'un gouvernement d'union nationale et est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors oui, je pense que c'est une bonne nouvelle puisqu'on ne peut que souhaiter qu'un gouvernement puisse se mettre en place en Libye puisqu'on voit bien que la situation de vive tension que connaît le pays, pour pas dire de chaos dans certaines régions, nécessite la présence d'un État à Tripoli, accepté par l'ensemble des partis, puisque vous savez que jusque-là, il y avait en fait 2 parlements, 2 gouvernements qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, l'un à Tripoli et l'un et l'autre à Tobrouk. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle de voir que les différentes parties prenantes libyennes aujourd'hui ont envie de se mettre d'accord, tentent de se mettre d'accord. Alors, ça n'est pas complètement joué, bien évidemment, mais je crois qu'on ne peut que encourager en tous les cas un tel gouvernement. Et que l'ONU a mis des moyens effectifs pour tenter de mettre en place ce gouvernement, de tenter de rassembler les différentes parties prenantes autour de la table, puisque l'on voit et l'on sait très clairement, me semble-t-il, que c'est la seule solution pour permettre à ce pays de sortir de la vive tension que j'énonçais tout à l'heure, pour sortir de cet état de tension et de guerre, et pour essayer d'amorcer l'après Kadhafi, enfin l'après-Kadhafi, puisque jusque-là, ça n'était pas vraiment le cas, en raison du combat entre les différentes factions présentes sur le territoire libyen.
Ces derniers jours, l'Union nationale, le plus grand monde n'y croyait. Bruno Tertrais, même question. Vous avez été surpris par l'annonce de l'aboutissement des négociations ce matin ?
Écoutez, moi je ne suis pas un expert de la politique nationale libyenne. Ce que je constate, c'est qu'en tout cas, la condition qui avait été mise par la France pour envisager une éventuelle intervention militaire contre Daesh en Libye a été remplie. Pourquoi ? C'est-à-dire que la France ne voulait pas faire comme en 2011, c'est-à-dire intervenir au nom de la responsabilité de protéger les populations, mais au contraire en soutien d'un gouvernement légitime, un petit peu comme on l'a fait au Mali, si vous voulez. C'est, en tout cas, en termes de modèle juridique, c'est un petit peu le même genre de choses. Mais, alors là, pour des motifs totalement différents de ce qui s'est passé en 2011 en Libye. Là, il s'agirait de, d'abord, de défendre nos propres intérêts, nos intérêts immédiats, qui sont le fait que Daesh est une véritable présence aujourd'hui, évaluée parfois à 5000 combattants. Je ne sais pas si ce chiffre est à prendre au pied de la lettre, si j'ose dire, mais en tout cas, c'est le chiffre qui est donné. Si Daesh s'implantait de manière solide, parvenait à, comme elle le fait en Irak et en Syrie, à utiliser la vente du pétrole libyen, en l'espèce, comme moyen de se financer, bon, ça serait un nouveau point de fixation de Daesh sur un nouveau théâtre. Et donc, effectivement, c'est un problème pour les Européens. La France, pour sa part, dit depuis maintenant 2 ans, je crois, en tout cas dans son discours, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense en particulier, dit depuis 2 ans, il va falloir un jour, malheureusement, réintervenir en Libye. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si la formation de ce conseil est une surprise ou pas. Agnès Levallois connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la condition juridique qui a été posée par la France pour une éventuelle intervention est désormais, sur le papier en tout cas, remplie.
Ariel Colonomos, l'enjeu véritable finalement de ce qui apparaît comme un enjeu de politique interne en Libye, c'est en réalité, comme le suggère Bruno Tertrais, un enjeu pour les Occidentaux, à savoir avoir enfin un interlocuteur unique et stable en Libye pour maintenant poser à nouveau la question d'une intervention internationale.
Oui, enfin, dans ce cas de figure, tout comme par ailleurs en 2011, à mon sens, se pose la question des raisons de la justification de l'usage de la force. De ce point de vue-là, enfin, très brièvement, mais pour revenir à 2011, c'est vrai que la raison qui avait été invoquée, parce que cette norme était nouvelle, ça avait été la responsabilité de protéger. Mais pour ma part, et ça avait été ma réaction à l'époque, je considérais pas que ça relevait de la responsabilité de protéger. C'était une intervention politique, au demeurant que l'on pouvait justifier ou pas, mais qui consistait à favoriser un camp par rapport à l'autre.
Est-ce qu'on
peut intervenir dans une guerre civile en prenant parti. Mais les civils, on pouvait l'espérer, auraient été... la protection des civils aurait été la conséquence plutôt de l'intervention, et ce n'est pas dit non plus, mais non pas la cause. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, là aussi, il s'agit de prendre politiquement parti en faveur d'un camp par rapport à l'autre. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, la situation se complique encore davantage, puisque c'est à la fois une question... De sécuritaire, comme vient de le dire Bruno Tertrais, bon, il peut y avoir un jeu d'intérêt, une question de sécurité. Bon, la Libye, c'est à 70 kilomètres d'une des îles de la Sicile. De fait, l'Italie est très, très présente, mais c'est aussi une question humanitaire. C'est toute la question des réfugiés, c'est toute la question des personnes qui meurent en mer, et toutes ces questions-là sont liées les unes aux autres. Et c'est vrai que les normes dont nous disposons, le vocable dont nous disposons, parfois ne permettent pas de rendre compte de la situation en tant que telle. Et également une autre question, à savoir finalement, bon, quelles sont les motivations des dirigeants politiques aujourd'hui, et qu'est-ce qui les anime face à cette question-là.
Est-ce qu'on peut rappeler simplement en 2011 la situation, la raison pour laquelle on a invoqué la notion de responsabilité de protéger? Il y avait donc une menace d'attaque de la part du régime de Kadhafi sur la ville de Benghazi qui menaçait d'être détruite. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une telle menace imminente, et cependant il y a quand même un certain chaos, vous l'avez rappelé Agnès Levallois, en Libye, une grande insécurité, la question humanitaire, vous l'avez dit, Ariel Colonomos, se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas à nouveau utiliser, invoquer cette notion de responsabilité, de protéger en 2016, comme on l'a fait en 2011?
Et moi, je crois qu'il faudrait savoir politiquement ce que veulent les pays qui disent qu'ils veulent intervenir. Il faudrait avoir le courage politique de dire quelle est la raison de cette volonté d'intervention. Est-ce que la volonté d'intervention, c'est parce qu'on veut lutter contre l'état d'organisation de l'état islamique, en considérant que c'est un danger pour nous, Européens? Mais il faut le dire clairement. Et à ce moment-là, on n'a rien à faire des Libyens en tant que tels, si c'est ça la question. Donc, il faudrait que les choses soient dites clairement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de voir que les Libyens essayent de se mettre d'accord pour pour tenter d'avoir un gouvernement qui, lui, sera à même de savoir ce qu'il veut faire. S'il y a un gouvernement en Libye, ça veut dire qu'on peut mettre sur pied une armée et que cette armée est là en place, dont sa mission première, ce sera d'assurer la sécurité des Libyens, donc de lutter contre Daesh. Donc ça, ça peut être très, très clair comme programme. Si nous, occidentaux ou européens, nous disons nous voulons intervenir en Libye, là, on n'intervient pas pour les Libyens de cette manière, on intervient pour se protéger, nous, puisqu'il y a eu un chaos dans ce pays et qu'une organisation terroriste se déploie sur ce territoire. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il faudrait que les responsables politiques soient clairs dans la façon de dire les choses. N'oublions pas Kadhafi, à l'époque où il était là, il nous était très utile parce que lui gérait la question migratoire. C'est-à-dire que lui s'était érigé aux yeux des Européens en disant « faites-moi confiance, moi je suis là, je gère la question migratoire ». Et en échange de quoi, évidemment, il a monnayé cette capacité à pouvoir gérer les flux migratoires pour éviter que les migrants, en particulier venant d'Afrique, après passant par la Libye, ne viennent en Europe. Ce verrou ayant sauté, on se retrouve, nous, Européens, avec cette question migratoire qui se pose. Et donc, si on veut intervenir aujourd'hui en Libye, c'est avant tout pour cette question-là, et non pas pour le bien-être de la population libyenne, qui avait été invoquée, si je puis dire, en 2011, pour dire qu'il y avait ce droit de protéger. Donc, je crois qu'il faut être clair aussi, dans le discours politique de nos responsables, qu'ils assument ce pourquoi ils veulent intervenir.
Bruno Tertrais, vous partagez l'impression d'Agnès Levallois qu'il y a une ambiguïté dans les intérêts affichés, les raisons plutôt affichées des dirigeants occidentaux, européens, par rapport à la Libye?
Oui et non. Si on reprend l'évolution du discours français depuis 2 ans, on constate effectivement, il y a 2 ans, il n'était pas question de Daesh, ça c'est vrai, et que si le gouvernement français évoquait la nécessité d'une nouvelle intervention en Libye, c'était davantage pour réduire le risque de développement des nébuleuses terroristes en général, essayer de réduire les trafics d'armes, etc. Aujourd'hui, je crois que le discours est plus clair, ou en tout cas, il y a une chose dont je pense que à la question posée par Agnès Levallois, la réponse est en fait assez simple. Il n'y aura pas d'accord international entre pays occidentaux, et peut-être avec d'autres pays, d'ailleurs dont des pays arabes, pour un autre mandat, pour une autre mission que celle de se battre contre Daesh. Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'accord entre Américains, Italiens, Français, Anglais et autres pour que cette mission soit plus large. Pourquoi ? D'abord parce que tout le monde est engagé partout. Ensuite parce que 2011, c'est quand même il n'y a pas très longtemps, qu'on a probablement très mal géré l'après-intervention. Donc je crois que si aujourd'hui la France ou d'autres pays disaient on va intervenir pour des raisons strictement humanitaires, à mon avis, on n'arriverait pas à avoir un consensus. Et alors pourquoi est-ce que la France insiste pour avoir un mandat ? Alors la France insiste beaucoup pour avoir un cadre juridique clair. Bon, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais en tout cas, je crois qu'elle sait très bien qu'il n'y aura jamais ce qu'on a eu en 2011, à savoir un mandat du Conseil de sécurité pour agir en Libye. À partir de ce moment-là, le seul cas légal pour utiliser la force, c'est l'appel du gouvernement, même si c'est de manière un petit peu artificielle. Vous savez, c'est ce qu'on a fait au Mali. Bon, ça a été un appel du gouvernement. Dans les faits, la lettre a probablement été rédigée à Paris et c'est le président malien qui l'a signé. Mais enfin, les formes...
D'où l'enjeu de créer un gouvernement d'union nationale en ce moment, alors.
Oui, tout à fait. C'est d'abord un enjeu pour les Libyens, comme Agnès l'a rappelé, mais c'est aussi un enjeu de cadre juridique international. En tout cas, je le répète, à mon sens, il n'y aura pas de consensus pour la formation d'une mini-coalition au-delà d'un mandat très limité qui est de réduire la poche Daesh autour de Sirte.
La France et la Grande-Bretagne étaient à l'initiative de l'intervention de 2011. Est-ce que vous avez la sensation qu'elles ont, vous dites Bruno Tertrais, qu'elles n'obtiendront pas à nouveau un cadre juridique de l'ONU, une nouvelle résolution pour intervenir? Est-ce que vous partagez ce sentiment, Ariel Kolonomos, que la France et la Grande-Bretagne ont épuisé leur crédit diplomatique en la matière?
Très certainement. Enfin, bon, de ce point de vue-là, enfin, je rejoins ce que vient de dire Bruno Tertrais, mais en même temps, enfin, plus que l'ambiguïté que vous soulignez à l'instant, l'ambiguïté des raisons potentielles d'intervenir, je pense qu'il y a une véritable méconnaissance des raisons d'intervenir. Lorsque Agnès Levallois vous disait, voilà, les gouvernants devraient nous expliquer pourquoi l'intervention serait une solution, mais je pense qu'ils ne le savent pas. Enfin, voyons les choses comme elles sont. Enfin, ce sont des situations qui sont très inédites, celles-là, où différentes raisons potentielles sont liées les unes les unes aux autres, et il n'y a pas de vision politique globale qui
permette... Pardon, vous voulez dire qu'en 2011, on ne savait pas pourquoi on intervenait ? Que les raisons n'étaient pas claires aux yeux même des dirigeants qui ont provoqué cette intervention.
Alors, en 2011, il s'agissait de prendre parti en faveur des opposants à un dictateur. L'histoire avait changé. Il fallait aller dans le sens de l'histoire. Il y avait des soulèvements contre des régimes autoritaires. Et d'une certaine manière, les gouvernants occidentaux ont été happés dans cette histoire-là, qu'ils ont voulu plutôt pousser, plutôt que finalement d'être un obstacle à ce déroulement. Historique. Mais en même temps, en 2011, il aurait fallu se préoccuper de l'après. Et le problème, 5 ans après ce soulèvement contre Kadhafi, 5 ans après cette intervention, en être arrivé là, c'est consternant. Et justement, au lieu d'invoquer la responsabilité de protéger et de faire une intervention qui consiste simplement à donner un avantage à un des camps pour combattre l'autre, mais en sachant que ensuite, lorsque finalement ces personnes qui auront été favorisées ne pourront pas faire grand chose et finalement vont vivre des années qui sont extrêmement difficiles, dont on voit maintenant les résultats, on avait pris, à mon avis, là une responsabilité de libérer. Et cette responsabilité de libérer.
De libérer du régime de Kadhafi.
Oui, cette responsabilité de libérer, il aurait fallu l'assumer. Je comprenais très bien les arguments contre l'intervention, qui consistaient à dire, mais voilà, nous ne voulons pas prendre cette responsabilité-là, cela concerne les Libyens. Bon, mais on pouvait comprendre également les raisons d'intervenir en disant, mais voilà, ce monde change, ce régime n'était pas juste, faisons quelque chose. Mais si on s'engageait dans cette voie-là, on s'est engagé dans cette voie, il aurait fallu en tirer les conséquences et donc maintenir une présence d'aide, une logistique, et celle-ci a fait défaut, et voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on refasse la même chose en disant, mais il faut intervenir contre Daesh, on fait ça en 6 semaines, et puis après on repart. Sinon, dans 5 ans, en 2021, on refait une émission sur, finalement, faut-il réintervenir en Libye en 2021.
Responsabilité de protéger, responsabilité de reconstruire après, Bruno Tertrais, on ne peut pas dissocier les deux.
Je suis assez d'accord. Alors, je suis à la fois tout à fait d'accord avec Ariel Colonomo sur sa conclusion, et beaucoup moins d'accord, mais en tout cas je ne suis pas certain d'être en accord avec lui sur ce qu'il a dit avant à propos de ce qui s'est passé en 2011. Qu'est-ce qui se passe en 2011? Moi je l'ai presque vécu de l'intérieur, si vous voulez. Je peux témoigner du fait, je ne suis pas dans la tête des dirigeants politiques, mais je peux témoigner d'une chose, c'est qu'il y avait, à tort ou à raison, un consensus unanime au sein de l'appareil politico-administratif français pour dire... Il est très probable qu'une situation épouvantable se prépare à Benghazi, que nous allons assister très probablement à une tragédie. Saïf el-Kadhafi, le fils de Kadhafi, celui que tout le monde adorait parce qu'il était habillé avec un beau costume, etc. Il parle de rivières de sang qui doivent couler. Et là, les responsables européens sont tétanisés à l'idée de vivre un nouveau Srebrenica, comme en 1995 en Bosnie, ou un nouveau Rwanda. Et ça pèse extrêmement lourdement dans la tête des responsables français. Peut-être qu'y a-t-il d'autres... Alors, on a prêté tout un tas d'autres motivations à Nicolas Sarkozy. Moi, je n'en sais rien. La seule chose que je peux dire, c'est que ce consensus-là, il existe. Est-ce qu'ils avaient tort ou raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a peur qu'il y ait vraiment une responsabilité imputée ensuite, a posteriori, aux Occidentaux, auxquels on dirait, vous n'avez rien fait. Vous saviez, vous n'avez rien fait. Parfois, les dirigeants européens, nos hommes politiques, si cyniques, eh bien, ils agissent parfois, en tout cas, ils croient agir pour de bonnes causes. En revanche, Ariel a raison, Ariel Colonomos a raison. On a fait un peu la même erreur que George Bush avec l'Irak en 2003, à savoir que on est allé jusqu'au bout de notre logique, on a renversé un régime, mais l'investissement politique, économique et militaire qui a été consenti après n'a été absolument pas à la hauteur de ce que nous avons fait à l'époque.
Agnès Levallois, vous voulez réagir?
Oui, parce que le risque, moi, je vois aujourd'hui avec une intervention contre Daesh, c'est qu'on retombe dans le même piège, à savoir que lutter contre Daesh avec des bombardements d'une coalition internationale qui serait mise en place, pourquoi pas, s'il n'y a pas de troupes au sol. On sait très bien que de toute façon, cette intervention intervention sera extrêmement limitée. Et n'oublions pas quand même la réaction des forces régionales qui ont leur mot à dire dans cette question et sur cette région. Et je pense en particulier à deux pays importants qui sont l'Algérie et l'Égypte, qui ont tous les deux des positions radicalement opposées sur ce qu'il faudrait faire en Libye. Puisque l'Algérie, évidemment, est contre une intervention, alors que l'Égypte, elle, pourrait y être favorable à certaines conditions. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, qui doit intervenir ? Est-ce que c'est une coalition internationale occidentale sans participation de pays arabes dans cette coalition, parce que les pays, les deux les plus directement concernés, ne sont absolument pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Et donc, comment mettre en place cette coalition pour lutter contre Daesh, avec des risques, à mon avis, du coup, d'instabilité bien plus grands, puisqu'il y aura en plus des conflits au niveau des intervenants et des partenaires régionaux qui sont parties prenantes et qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans ce cas-là.
Agnès Levallois, avant de poser plus frontalement la question d'une intervention aujourd'hui, dernière question sur les conséquences de l'intervention de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui les Occidentaux n'ont pas les pieds et poings liés par rapport à une nouvelle intervention du fait des conséquences, on l'a évoqué, de celle de 2011 et de du non-suivi quelque part et de la non reconstruction, la non-accompagnement à la reconstruction, à l'intervention de 2011.
Oui, bien sûr, on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, qui aurait un rôle à jouer et qui préparerait les suites de cette intervention ? Parce que parler d'intervention, d'accord, pourquoi pas ? Moi, dans ce cas, aujourd'hui, en Libye, je n'y suis pas particulièrement favorable parce que je pense qu'on risque de se trouver dans une situation où on n'aura rien préparé. La seule chose qu'on ait à faire aujourd'hui, et peut-être mettre absolument tout notre poids dans la balance, c'est de consolider cette tentative de règlement politique avec un gouvernement du nom national. C'est la meilleure carte aujourd'hui à jouer pour tenter de faire en sorte qu'un pays puisse se reconstruire. Et là, je trouve que, là encore, j'insiste, ce signal est un signal intéressant, important. Je ne sais pas si ça va marcher, évidemment, mais on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'en Libye, il y a une volonté, et quand on voit les autres terrains, et si on pense à la Syrie, je crois que la solution est beaucoup plus proche aujourd'hui en Libye qu'elle ne l'est en Syrie. Et donc, c'est là-dessus, je crois qu'il faut essayer de capitaliser au maximum pour essayer de faire en sorte, justement, qu'on sorte de la situation de chaos que vit la Libye depuis pratiquement 5 ans.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Faut-il à nouveau intervenir en Libye ? C'est la question que nous posons ce soir et nous en discutons avec Ariel Colonomos, Agnès Levallois et Bruno Tertrais. Intervenir ou pas en Libye ? Est-ce que nous avons le choix finalement, Ariel Colonomos ? Est-ce que il n'y a pas une responsabilité aujourd'hui, une obligation à intervenir, ne serait-ce que par la menace que fait peser l'implantation de l'État islamique en Libye ?
Alors évidemment, enfin, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe en raison de la souffrance et des personnes qui meurent, et aussi en raison de ce que l'on a fait, c'est-à-dire que en 2011, on a pris parti. C'est une décision qui engage, et il y a eu un défaut de présence et qui se fait cruellement sentir aujourd'hui. Donc cette décision-là prise en 2011, il faut la garder en tête. Alors en même temps, là on est dans, de toute façon c'est également le cas en Syrie. Enfin aujourd'hui on est dans des situations où quoi que l'on fasse, il y aura des conséquences négatives. Ça s'appelle des dilemmes finalement. C'est exactement cela. Vous faites X, il y aura des conséquences négatives. Vous faites Y, il y aura aussi des conséquences négatives. Vous intervenez, il y aura des conséquences négatives. Vous n'intervenez pas, il y en aura aussi. Peut-être que ce ne seront pas.
Il faut choisir entre deux mauvaises solutions. C'est ça que vous nous suggérez.
Il faut essayer de voir quelle est la situation où les conséquences seront les moins négatives. Et par ailleurs, enfin, à propos aussi de cette question de l'engagement premier de 2011, vous faites, c'est-à-dire ceux qui sont intervenus, faites désormais partie d'un processus. D'ailleurs, c'était à propos de l'Irak, c'était Colin Powell qui disait « Once you break it, you own it ». Vous avez cassé quelque chose, et bien à ce moment-là, vous êtes propriétaire. C'était la doctrine de Pottery Barn. Vous allez dans un magasin, vous cassez quelque chose, vous devez payer. Et là, vous êtes lié. Alors en même temps, cette question de l'intervention, C'est en ce sens où, enfin, de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno Tertrais, c'est-à-dire que se limiter à une intervention... Alors vous dites que de facto, c'est ce qui se passe dans la tête des gouvernants, là, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faudrait les suivre? Ça, je le suis moins. C'est-à-dire que limiter une intervention à une lutte contre Daesh... En sachant qu'il est extrêmement difficile aussi de savoir ce que vaincre contre Daesh veut dire, c'est là aussi faire preuve d'incurie, puisque bon, enfin, utiliser la force, eh bien, cela va peut-être tuer des combattants de Daesh, mais cela tuera aussi des personnes qui ne le sont pas, et donc toute intervention a un double effet. Il y aura un effet sur les populations civiles. Et alors, il n'y a pas de loi mathématique à cela, mais on peut penser que certaines personnes réagiront ensuite contre cette dite intervention et que de ce point de vue-là, ça n'arrangera pas les choses. Et donc si on veut compartimentaliser les raisons d'intervenir et en privilégier une seule uniquement, à mon avis, on va créer de gros problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut aussi envisager ces autres aspects humanitaires.
On va laisser répondre Bruno Tertrais sur cette question.
Je ne peux pas croire un instant que si on fait une petite intervention, on crée de petits problèmes, et si on fait une grande intervention, on ne crée pas de problèmes. Ce qui est la logique pour moi de ce que vous venez de dire. J'avoue, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors, une réponse quand même sur un point, là c'est une réponse très pragmatique, en dehors du fait que personne aujourd'hui autour de la table de discussion ne souhaite une intervention massive, il y a un problème de forces disponibles. Les forces occidentales, en tout cas les forces européennes, sont tellement mobilisées qu'il va falloir déshabiller Paul pour habiller Pierre, ou l'inverse, ou Jacques, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, là par exemple pour la France, moi j'en ai parlé avec de très hauts responsables très récemment, il m'a dit, moi je ne sais pas faire, je ne peux pas intervenir en Libye demain, sauf à retirer les forces d'autres opérations qui sont en cours. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas intervenir en Libye si ça se passe demain.
Et quand bien même on aurait les moyens, Bruno Tertrais, par rapport à ce que développait Ariel Colonomos, est-ce qu'aujourd'hui, le prix d'une non-intervention serait plus élevé qu'une intervention?
On ne peut pas le mesurer à l'avance, mais vous avez raison de soulever cette question. Personne ne peut dire que la Libye serait été 10 fois mieux si on n'était pas intervenu. Je vois mal comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Syrie, c'est beaucoup mieux que si on était intervenu. Ça marche dans les deux sens. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine. Ariel Colonomos avait bien fait de rappeler ce que dit Colin Powell dans le bureau Oval à George Bush. Attention, vous voulez aller en Irak, if you break it, you're going to be the proud owner of several tens of millions of Iraqis. Vous allez être le fier propriétaire. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le président? Il avait raison de mettre Bush devant ses responsabilités. Sauf que, un mot quand même, c'est pas l'intervention qui a cassé la Libye. La Libye, au mois de mars 2011, elle est déjà cassée. Ça fait 2 mois que le pays est dans une logique de guerre civile, et je pense que, je ne peux pas le démontrer, mais je pense que la vision sur laquelle, l'idée sur laquelle, serait été peut-être encore bien pire s'il n'y avait pas eu d'intervention, est une idée, une thèse qui se défend tout autant que celle de dire que c'est la faute de ceux qui sont intervenus, qui n'étaient d'ailleurs pas seulement les Occidentaux, mais aussi les pays arabes.
J'ai dit simplement que lorsqu'on intervient, à ce moment-là, on fait partie d'un processus qui vous engage. Utiliser le contrefactuel, de toute façon, on le fait tout le temps. Imaginez l'histoire qui n'a pas eu lieu pour la comparer à l'histoire qui a eu lieu.
On le fait, et en même temps, cela n'a pas de grande preuve scientifique, une grande validité scientifique.
C'est un grand débat en sciences sociales qui est, à mon sens, très, très, très intéressant. Ça peut être tout à fait légitime. En même temps, il n'y a pas de preuve exacte. Voilà, il y aura une interprétation qui sera plus ou moins bonne et peut-être meilleure qu'une autre. Mais là, sur ce, est-ce que finalement la Libye serait dans une meilleure situation aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'intervention en 2011? Ça, franchement, je n'en sais rien. Et d'autant plus qu'on aurait même du mal à comparer les deux histoires parce que les critères ne seraient pas les mêmes. On ne serait pas dans le même type de régime politique, et comparer la satisfaction d'individus qui vivent sous un régime sous le régime de Kadhafi à celle d'individus qui vivent dans cette situation extrêmement chaotique proche de la guerre civile, je ne sais pas si on peut comparer ces deux mondes-là.
Agnès Levallois, votre avis sur ce débat, comparer la situation actuelle en Libye à la Syrie par exemple, en disant si on n'était pas intervenu aujourd'hui, la Libye serait comme la Syrie, qu'est-ce que vous en pensez?
toute façon, je ne pense pas qu'on puisse faire des comparaisons de situations qui sont des situations quand même extrêmement différentes. La Libye de Kadhafi, ça n'est pas la Syrie de Bachar ou même de Hafez al-Assad. Ce sont deux situations qui sont de toute façon différentes. Donc, on ne peut pas s'amuser, j'allais dire, à comparer. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. La Libye est un petit pays en termes de population. C'est un grand territoire. Et je crois que finalement, la Libye est aujourd'hui dans une situation plus facile à régler que ne l'est la situation syrienne, parce que d'abord il y a quand même beaucoup moins d'interventions extérieures en Libye qu'il n'y en a en Syrie. Aujourd'hui, la Syrie est devenue le champ de bataille d'une confrontation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre la Russie et la Turquie, entre les Turcs et les Kurdes. Enfin bon, et on peut multiplier les exemples à l'envi.
Alors pardon, à défaut de comparaison, est-ce qu'il ne peut pas y avoir au moins des leçons à tirer de la situation de la Libye sur la Syrie ?
Si on essaye de faire une comparaison, moi je suis frappée par une chose. Pour moi, le tournant de la guerre en Syrie, c'est la non-intervention fin août 2013 après l'annonce américaine. Pourquoi ? Pas parce que je suis en faveur forcément d'intervention, pas du tout. C'est parce que les Américains ont tenu des propos et le président Obama a dit clairement il y a une ligne rouge. À partir du moment où un discours est tenu, il doit y avoir correspondance entre le discours et les actes. Et si ça n'est pas le cas, comme ça s'est passé en Syrie, pour moi, le jour où Obama n'est pas intervenu en dépit de ses engagements, il a donné un permis de tuer à Bachar el-Assad et celui-ci l'a utilisé, alors là, sans aucune retenue, puisque personne ne pouvait s'opposer à lui. Donc, dans ce cas-là, la non-intervention, alors qu'elle était prévue dans le sens où cette ligne rouge avait été franchie par Bachar el-Assad, cette non-intervention, pour moi, a été criminelle pour le devenir de la Syrie et avant tout pour la population syrienne, parce qu'il y avait eu ce propos. Et donc là, je fais une distinction entre les deux situations et je crois que c'est très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte ? C'est qu'il y a une parole, et est-ce qu'une parole compte ? Est-ce qu'un engagement, là en l'occurrence cet engagement américain qui n'est pas tenu, ça veut dire que du coup, il n'y a plus aucune parole possible de responsable politique avec toutes les incidences que cela. Donc là, c'est extrêmement grave comme situation. Aujourd'hui, dans le cas de la Libye, je ne suis pas sûre en tous les cas qu'une intervention serait une bonne chose pour le devenir de la Libye, puisqu'on voit bien qu'une intervention, ce serait pour donc limiter l'avancée de Daesh, mais ça ne serait pas pour soutenir un processus politique, pour essayer de faire en sorte que ce processus politique aboutisse à une solution politique pour stabiliser la Libye.
Bruno Tertrais, si on intervient demain en Libye, est-ce qu'on pourra refuser d'intervenir après-demain en Syrie ?
Bien sûr, on le fait tout le temps.
On
le fait tout le temps. Et je ne vois pas pourquoi, sous prétexte qu'on ne peut pas intervenir partout, on devrait intervenir nulle part. Ça, franchement, c'est ce qu'on appelle parfois, à tort, à mon sens, la critique du deux poids, deux mesures. Ça s'appelle du pragmatisme. On fait ce qu'on peut. La politique, c'est faire ce qu'on peut. On pourrait même aller plus loin. Il y avait un diplomate américain, Richard Haas, qui disait la politique étrangère, c'est un domaine dans lequel on ne peut pas avoir le luxe de la cohérence. Bon, c'était allé un peu loin, mais la politique au jour le jour, on l'évoquait tout à l'heure implicitement, dans le domaine international comme dans d'autres domaines, c'est en permanence le choix entre des mauvaises et des très mauvaises solutions, et je ne vois pas pourquoi nous devrions refuser d'aller réduire la menace terroriste à tel endroit ou protéger telle population à tel endroit, sous prétexte qu'on ne peut pas le faire partout, en permanence, partout dans le monde.
Ariel Colonomos, il faut assumer ce deux poids deux mesures.
Oui, enfin moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno Tertrais à propos de cette idée que ce n'est pas parce qu'on peut pas intervenir partout qu'il ne faut pas intervenir parfois dans certaines situations données. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, à propos de Richard Haas, je ne suis pas tout à fait convaincu de cette idée qu'on peut pas se permettre le luxe de la cohérence, parce que
j'ai pas dit qu'il avait raison.
Je ne crois pas que l'incohérence soit la meilleure des solutions. Et là, en l'occurrence. C'est pour ça qu'à nouveau, enfin, une intervention limitée pour résoudre une question dont on n'a même pas finalement ensuite les critères pour savoir si finalement on a résolu la dite question. On va tuer, mettons, je sais pas moi, 3000 combattants de Daesh. Il y en aura encore 3000 et il y en aura peut-être 5000 qui vont arriver. Donc on ne sait pas exactement quel sera le critère véritablement de la réussite d'une intervention. Et en revanche, il me semble qu'à nouveau, enfin, le problème est très général, c'est-à-dire c'est le rapport à un conflit qui se transnationalise et de la part d'un acteur qui lui-même veut se constituer en tant qu'État. Et ce problème est général. Et s'il n'y a pas de réponse générale et multilatérale à une question comme celle-là, ben finalement, ce qu'on va faire, c'est que tous les 5 ans, on va intervenir. C'est comme ce que, quand une voiture est en très mauvaise condition, ben voilà, on l'amène chez le garagiste tous les 5 ans. Et puis ensuite, on sait que d'ici peu, elle va vous lâcher à nouveau. Et donc, ça, c'est la politique de la rustine.
Mais est-ce qu'on a le choix d'une autre politique que celle de la rustine ? Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui?
Je pense qu'on a toujours le choix.
Laisser la Libye dans l'état dans lequel elle est. Est-ce qu'on a vraiment ce choix-là?
On peut faire le pari qui était celui d'Agnès Levaux, de dire, mais voilà, finalement, ce gouvernement va se constituer, donnons-lui une chance et voyons ce que ça va donner. Peut-être, je dois dire, enfin moi, je connais pas du tout ces questions libyennes comme vous les connaissez, mais je dois dire que c'est un scepticisme de l'ignorant. Enfin, je ne vois pas comment ils vont faire des miracles. Enfin, ces gens-là, même s'il y a un gouvernement qui est nommé, donc je ne sais pas si vraiment on a beaucoup de raisons d'être optimiste. Et donc on a le choix. Enfin, je sais pas. La politique, c'est ça, c'est d'essayer d'inventer des solutions plutôt que d'avoir finalement d'être toujours dans l'après-coup et d'apporter des solutions limitées parce que les moyens sont limités, c'est exact. Mais enfin, s'il y avait un accord entre des États occidentaux et des États non occidentaux pour prendre à bras le corps cette question-là, eh bien, à ce moment-là, là, ça serait une véritable réponse politique. Et aussi aller au-delà de politiques étrangères dictées par des considérations intérieures, enfin, comme on le voit beaucoup en France. Et il y a d'autres États que la France et la Grande-Bretagne. Enfin, il faudra voir avec nos amis européens. Enfin, bon, l'Italie est quand même extrêmement concerné par cette question-là. Enfin, je pense que, enfin, pour eux, c'est une question vitale, et les voisins de la Libye. Mais s'il n'y a pas de réponse multilatérale, il n'y aura jamais de bonne réponse.
Agnès Levallois, vous voulez réagir?
C'est évident qu'il n'y a pas de miracle, et j'attends pas un miracle. Mais je crois que c'est important dans cette période où on parle beaucoup militaire, on parle beaucoup intervention. Je pense qu'il est extrêmement important que le politique essaye, en tous les cas, de revenir sur le devant de la scène et qu'il ait un rôle à jouer, puisqu'on sait très bien que c'est la seule solution pour sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve dans beaucoup de pays de la région aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un élément que nous, communauté internationale, si ce mot veut encore dire quelque chose, a essayé d'appuyer absolument et de faire en sorte que les différentes parties prenantes, donc de cette communauté internationale, mais aussi des acteurs régionaux, je reviens aussi sur l'importance des acteurs régionaux, parce que je crois qu'une solution, par exemple en Libye, ne passe aussi que par une forte négociation, et là c'est vraiment le rôle des diplomates, à travailler avec l'Algérie, à travailler avec l'Égypte, et que ce soit pas simplement dans cette relation, si vous voulez, Libye, occidentaux, c'est-à-dire européens et américains, Syrie, russe et américains, mais que ces acteurs régionaux qui ont leur mot à dire et que ce travail de diplomate, que ce soit pas simplement les militaires qui soient là à la manœuvre sur tous ces dossiers-là, mais que les diplomates soient à la manœuvre et qu'on leur donne un rôle à jouer pour justement travailler avec les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens, pour qu'une solution soit tenable. S'il n'y a pas ce travail qui est fait en amont, évidemment, rien ne sera possible. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a parfois, on a tendance à oublier certains des acteurs qui peuvent jouer un rôle et qui seraient à même de jouer ce rôle. Et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut insister.
Bruno Tertrais, il faut ouvrir la question quand on dit faut-il intervenir en Libye, inclure les autres acteurs, comme le dit Agnès Levallois.
Bien sûr, je crois qu'on l'envisage déjà. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que l'Égypte, qui prétend être la grande puissance de la région, à laquelle on vend des rafales, j'aimerais bien qu'elle utilise ces rafales avec nous en Libye, si on doit aller en Libye. Deuxièmement, je crois que c'est pas un problème de court terme contre long terme. C'est pas l'alternative entre aller frapper Daesh ou faire une grande opération de reconstruction et attendre que ce gouvernement d'union nationale justement fasse le travail. Il y a un problème de court terme à gérer maintenant, alors que dans le meilleur des cas, ce gouvernement d'union nationale ne pourra reconquérir son territoire que dans les 4 ou 5 ans minimum. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout dernier point, je crois que la bonne métaphore, ce n'est pas celle de la voiture chez le garagiste, je crois que c'est celle de la pelouse. Ce n'est pas parce que la pelouse va repousser que vous ne devez pas la tondre.
Oui, mais il faut donner de la légitimité à un pouvoir voir si on veut qu'il puisse justement travailler. Et c'est pour ça que ça marche aussi sur le court terme et dans le long terme. Mais il faut absolument insister sur ce point.
Voilà. Faut faire les deux à la fois.
Exactement.
On est d'accord.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur la notion de responsabilité, enfin d'intervention. Merci Ariel Colonomos, directeur de recherche au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient des questions méditerranéennes à l'ENA et à Sciences Po. Bruno Tertrais, politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Toutes les informations sur vos dernières parutions, vos derniers livres sur notre site à la page Du Grain à Moudre, où vous trouverez également la réécoute et les podcasts. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Fanny Richer, Cyril Baer, Céline Leclerc et Hugo Florent, à la réalisation Anne Kobilac, à la prise de son ce soir Édouard Rubinstein, assisté de Pierrick Monsigny. Demain, les bénéficiaires des aides sociales ont-ils des comptes à rendre? C'est la question dont nous débattrons